VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au moins 15 personnes sont mortes suite à de nouveaux massacres à Beni en RDC. Au Togo, l'élection présidentielle a été fixée au 22 février 2020. Manifestation exceptionnelle en Algérie pour le dernier vendredi avant la présidentielle. À Brazzaville, le CHU est très critiqué pour ses prestations après la mort d'un journaliste de la télévision nationale. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, une quinzaine de civils ont été tués et décapités dans un nouveau massacre près de Beni dans l'est du pays. Nous faisons le point avec Yakuba Ouedraogo.
Cette nouvelle attaque attribuée aux ADF a visé le hameau de Mantumbi. D'après Jamal Moussa, porte-parole des organisations de la société civile de Mbo, les terroristes du groupe ADF ont attaqué en plein jour, d'abord dans la brousse où des gens étaient dans leur champ, puis dans le village. Hier, deux passagers d'une moto ont lancé un engin qui a explosé dans un marché, faisant trois blessés à Beniville, selon Aloïs Mbouarara, maire de Rwenzori. L'usage des engins explosifs est un nouveau mode opératoire dans cette région en proie à des violences. L'armée a annoncé avoir découvert dans un camp repli aux ADF une usine de fabrication de bombes artisanales. Les forces congolaises et les casques bleus ont commencé des opérations conjointes dans la région de Beni contre les groupes armés. Plus de 100 civils ont été tués depuis le 5 novembre dans des attaques attribuées aux rebelles ADF.
Au Gabon, le porte-parole du gouvernement a précisé que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, n'a pas nommé son fils Noureddine à la tête des services de la présidence pour en faire son poulain pour la présidentielle de 2023, mais bien pour ses compétences et la confiance absolue qu'il a en lui. Ali Bongo, affaibli depuis un an par les suites d'un accident vasculaire cérébral, avait lui-même été promu sur le devant de la scène politique dans les années 2000, puis élu en 2009 après la mort de son père Omar Bongo, qui est resté 42 ans au pouvoir. Au Togo, la présidentielle est fixée au 22 février 2020. Le président sortant fort, Nyasim Bey, qui a lui aussi succédé à son père, devrait être candidat pour un quatrième mandat. Eric Manirakiza.
Le décret publié hier fixe la date du premier tour de l'élection présidentielle au 22 février 2020. Si aucun des candidats n'obtient de majorité, un second tour sera organisé. La campagne électorale sera ouverte le jeudi 6 février pour prendre fin le 20 février. Les forces de défense et de sécurité iront aux urnes 72 heures avant la date du scrutin général. C'est la première fois que la diaspora togolaise pourra voter suite à une loi adoptée le 5 novembre par l'Assemblée nationale. Plusieurs partis d'opposition et des responsables de la société civile, dont les évêques, ont demandé le 13 novembre la suspension du processus électoral et l'ouverture d'un dialogue avec le pouvoir. Ils réclament la recomposition de la Cour constitutionnelle, l'établissement d'un fichier électoral fiable et le réaménagement de la Commission électorale nationale indépendante. Début mai, les députés togolais avaient voté une révision constitutionnelle qui permet non seulement au président Nyasim Bey de se représenter en 2020 et 2025, mais aussi de bénéficier d'une immunité à vie pour les actes posés pendant les mandats présidentiels.
En Guinée, 8 manifestants ont été enterrés aujourd'hui. Ils ont été tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, lors de manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Condé. Le cortège funèbre comptait plusieurs milliers de personnes et les opposants ont promis de poursuivre leurs manifestations jusqu'à la victoire finale, selon leurs mots. Au Sénégal, plusieurs quartiers de Dakar sont privés d'eau. Une grève des agents de la Sénégalaise des eaux perturbe la distribution depuis plusieurs jours. À 3 semaines de son remplacement par le Français Suez, le gouvernement a critiqué avec virulence ce mouvement, dénonçant des actes de sabotage destinés à perturber la distribution normale de l'eau et prendre les populations en otage. Fin de citation. Une foule d'une ampleur exceptionnelle a manifesté à Alger à l'occasion du dernier vendredi avant l'élection présidentielle rejetée par une partie de la population. Nathalie Barge. pas de vote, état civil et non militaire, ont crié les manifestants alors que la marée humaine était en marche pour un 41e vendredi de mobilisation dans le centre d'Alger. « Je ne vais pas voter et le 8 décembre, je ferme ma boutique », ont scandé les manifestants, relayant un appel à la grève générale à partir de dimanche. Et Gaït Salah oublie le vote le 12 décembre, ont-ils lancé à l'adresse du chef d'état-major qui exerce de facto le pouvoir depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Le mouvement de contestation réclame le démantèlement de la totalité du système au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. S'exprimant pour la première fois un vendredi depuis le début du Irak, le chef de l'armée a déclaré que la présidentielle du 12 décembre sera, je cite, « une fête électorale à travers laquelle se réalisera la volonté populaire ».
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un homme a ouvert le feu dans la base navale de Pensacola en Floride, faisant 3 morts avant d'être tué par la police. Cette fusillade intervient 3 jours après une attaque similaire à Pearl Harbor. Toujours aux États-Unis, le marché du travail a continué d'afficher en novembre une excellente santé avec la création de 266 000 emplois et un taux de chômage historiquement bas. De quoi conforter le président Donald Trump à moins d'un an de l'élection présidentielle. L'économie a été jusqu'à présent la carte maîtresse du président américain. Les démocrates se dirigent vers la mise en accusation du président Donald Trump, mais fort du solide soutien des républicains qui dominent le Sénat, le président américain ne sera vraisemblablement pas destitué. Ces profondes divisions se confirment chez les Américains après plus de 2 mois d'enquête dans l'affaire ukrainienne. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a réaffirmé sa très ferme volonté de mener à son terme la réforme du système de retraite. Ce projet de réforme des retraites, emblématique du quinquennat d'Emmanuel Macron, a déjà fait descendre au moins 800 000 personnes dans les rues jeudi et paralysé les transports publics parisiens ainsi que la plupart des trains du pays. Enseignants, pompiers, policiers, personnels de santé ou encore contrôleurs aériens se sont également mobilisés. En Irak, 2 roquettes ont été tirées sur une base abritant des soldats américains, dernière d'une série d'attaques qui, si elles n'ont pas fait de victimes, inquiètent les États-Unis. Des précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Ces tirs sur la base aérienne d'Al-Balad, à 80 km au nord de Bagdad, interviennent alors que Washington envisage de déployer 5 000 à 7 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Les 2 roquettes Katyusha n'ont fait ni victimes ni dégâts, mais on n'en était pas loin à affirmer l'une des sources américaines en Irak. En 6 semaines, il y a eu 8 attaques contre des bases abritant des soldats américains ou l'ambassade américaine à Bagdad. Il y a 3 jours, 5 roquettes se sont abattues sur la base aérienne d'Aïn al-Assad. En novembre, 15 de roquettes ont frappé la base aérienne de Kayara. Aucun groupe n'a revendiqué ces attaques. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo pointe du doigt les factions armées irakiennes soutenues par l'Iran, grand ennemi des États-Unis. Vendredi, des sources sécuritaires ont accusé les brigades du Hezbollah, inscrites sur la liste noire américaine des organisations terroristes. L'Iran arme, finance et entraîne les factions les plus radicales du Hashd al-Ashabi, coalition des paramilitaires militaires irakiens intégrés à l'État. Les groupes du Hashd sont devenus, selon Washington, une menace plus importante pour les soldats américains que les djihadistes du groupe État islamique.
Au moins 3 manifestants ont été tués à Bagdad après que des hommes armés ont attaqué et repris un bâtiment que les contestataires occupaient depuis plusieurs semaines. Les manifestants disaient redouter des violences depuis jeudi lorsque des partisans des paramilitaires pro-Iran s'étaient livrés à une démonstration de force sur la place Tahrir adjacente, épicentre de la contestation contre le pouvoir à Bagdad et son parrain iranien. D'ailleurs, le Trésor américain a sanctionné 3 membres du Hashd al-Ashabi, coalition chiite de paramilitaires pro-Iran et intégrés à l'État irakien, accusés de violations graves des droits humains.
Quelques 430 personnes sont mortes en Irak au cours de la répression des manifestations qui ont éclaté le 1er octobre. Les États-Unis ont dénoncé vendredi l'ingérence de l'Iran dans la formation d'un nouveau gouvernement irakien. C'est incroyablement problématique et c'est une grave violation de la souveraineté irakienne, a déclaré David Schenker, secrétaire d'État adjoint chargé du Moyen-Orient. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
L'opérateur tanzanien ICTC va plus que doubler la capacité de son terminal à conteneurs de Matadi en République démocratique du Congo pour 100 millions de dollars. Le terminal aura une capacité de 400 000 conteneurs par an. Les travaux permettront aussi d'agrandir le quai, de doubler la surface de la gare de triage et d'acquérir de nouveaux équipements. Le port de Matadi est la principale plaque tournante des expéditions en RDC. Le Mali consacrera près de 10 milliards de francs CFA pour relancer le chemin de fer entre Bamako et sa frontière avec le Sénégal. Les fonds serviront à remettre à niveau plus de 580 km de rails, à réhabiliter 19 gares ferroviaires, dépôts et ateliers de maintenance, ainsi qu'à acquérir des locomotives. Pour terminer, l'Ouganda envisage d'emprunter 660 millions de dollars auprès des banques internationales pour combler son budget 2019-2020 après une baisse de 9% de la collecte des recettes intérieures en raison de retard dans la mise en œuvre de certaines mesures génératrices d'impôts. Cette décision pourrait intensifier les inquiétudes quant à l'accroissement de la dette de ce pays qui, selon le FMI, dépasserait probablement 50% du PIB en 2021-2022.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Deuxième victoire pour l'Angola au mondial de handball.
Oui, opposée à Cuba, l'Angola s'est régalée. L'emportant 40 à 30, les Palancas clôturent ainsi leur phase de groupe sur une nouvelle victoire, une seconde. De quoi s'ouvrir peut-être les portes du tour principal. Par contre, la République démocratique du Congo n'ira pas plus loin après sa nouvelle défaite contre l'Argentine 16 à 25.
Football, le Djoliba AC attend Bidvest d'Afrique du Sud en Coupe CAF.
Le match se joue ce dimanche au stade du 26 mars de Bamako. Une rencontre comptant pour la deuxième journée de la phase de poule. Pour le coach du Djoliba, son club peut tirer son épingle du jeu, même s'il n'a pas une grande connaissance de son adversaire. On écoute Kwadjo Georges.
On a vu un peu le match qu'ils ont livré contre le Orea. Ça nous donne une petite idée, mais toujours est-il que c'est 11 contre 11. Il faut qu'on prenne 3 points ici, c'est le plus important pour nous. C'est un groupe joyeux, une bande de copains qui s'aiment, qui travaillent avec amour, abnégation et envie. C'est des jeunes gens que nous allons pouvoir aider à pouvoir apporter au Grand Mali.
Kwadjo Georges au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. À suivre également Enyimba du Nigeria FC San Pedro de Côte d'Ivoire. Les autres Nigériens d'Enugu Rangers se déplacent en Égypte pour affronter El Masri. Nouvelle chance pour les Béninois d'Ezaï FC devant les Congolais du DC Motoma Pembe. Zanaco fera face à la Renaissance sportive de Berkane. Oria de la Guinée reçoit Al Nasr de la Libye. Pyramide joue Nouadhibou FC de la Mauritanie.
Ligue des champions également sur le continent ce week-end.
Oui, l'une des rencontres les plus attendues, c'est le duel d'anciens champions entre le Wydad Casablanca et Mamelodi Sundowns. Le club marocain affrontera son homologue sud-africain pour la quatrième saison consécutive. Lors de la dernière édition, les deux s'étaient rencontrés en phase de groupe et en demi-finale. Dans le groupe D, l'AS Vita Club de la RDC sera face au Raja marocain lors du remake de la finale de la Coupe CAF 2018, où le Raja a remporté le trophée grâce à sa victoire 4-3 sur l'ensemble des deux rencontres.
Chelsea, autorisé à recruter dès le 1er janvier.
Le tribunal arbitral du sport a allégé l'interdiction de recrutement infligée au club anglais pour des infractions sur les transferts de mineurs, la ramenant de deux à un seul mercato, déjà purgé l'été dernier. C'est une victoire pour Chelsea après deux décisions beaucoup plus sévères de la FIFA. Le 22 février, la Fédération internationale avait interdit Chelsea de recrutement pour les deux prochaines périodes de transfert en raison d'infractions à la réglementation sur les transferts internationaux de joueurs mineurs. Selon la FIFA, Chelsea a violé la réglementation pour 29 d'entre eux.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Et direction le Mali, pour commencer, le président français Emmanuel Macron invite les cinq présidents des pays du Sahel à Pau le 16 décembre pour une clarification de leur part concernant la présence française sur place, Barkhane. Cette invitation n'est pas du goût de bon nombre de Bamakois. Kassim Traoré nous en dit plus.
Le président français a conditionné le maintien de l'opération française Barkhane dans la bande sahélo-saharienne à une clarification des pays du G5 Sahel. Aboubacar Baniza, chef d'ONG.
La manière ne m'a pas plu. Et comment un jeune président de, vraiment de son âge se permet d'interpeller en tout cas des vieux présidents africains pour qu'ils se rendent à Paris en vue de clarifier leur position par rapport à l'intervention des forces Barkhane dans le Sahel. Moi, vraiment, par rapport à la méthode, vraiment, c'est humiliant. C'est vraiment de la honte vraiment pour le chef d'État.
Le président français attend de ses homologues du Niger, Mali, Tchad, Mauritanie et Burkina Faso qu'ils clarifient en formalisant leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Amadou Sala Touré de Tombouctou.
Tout simplement, nous savons ce qu'il est en train de faire. Beaucoup de Maliens disent ça chaque jour que j'ai fait. Parce que nous disons que nos dirigeants ne sont que les gouverneurs des présidents français en Afrique. Quel qu'en soit les pays africains, très généralement, ce sont des gouverneurs. Parce que la façon dont il est en train de les appeler, c'est comme si quelqu'un qui est chez lui, dans sa famille, est en train d'appeler les enfants de sa famille. C'est ça qu'il est en train de faire.
Cette invitation alimente beaucoup de causeries à Bamako. Surtout que la France veut des réponses claires et assumées.
La réponse à la question, elle est très simple. Pourquoi je dis que c'est très simple? Les chefs d'État n'ont qu'à aller répondre à l'invitation d'Emmanuel Macron en envoyant avec eux, chacun, au nom de son pays, une lettre qui dit clairement que nous ne voulons plus de Barkhane dans le Sahel. C'est très simple.
La rencontre de Pau peut être aussi une vraie rencontre de clarification. C'est ce que pense l'agent de santé Adam Djakité.
Pour moi, c'est une occasion que les chefs d'État des cinq pays du G5 Sahel doivent prendre comme opportunité et comme occasion de clarifier leur position parce qu'il faudra être franc. C'est la sécurité de la population du Sahel qui en dépend. Il faut aller directement au but, dire la vérité, ne pas essayer de caresser les mots pour dire juste ce que le président veut entendre. Tout le monde voit aujourd'hui que la force Barkhane, sa présence n'a pas eu d'impact dans le Sahel. L'insécurité continue, les attaques terroristes continuent, les gens continuent de mourir, que ce soit les femmes aussi bien que la population civile.
La France souhaite la fin de l'ambiguïté à l'égard des mouvements anti-français. Cet avis est partagé par Aboubacar Banizan.
Moi, je pense que c'est normal. C'est normal parce que pour Emmanuel Macron, il ne peut pas comprendre que la force Barkhane est là pour lutter contre les terroristes dans le Sahel. Et que, en tout cas, la population de ces pays-là s'insurge contre la force Barkhane. Bon, par rapport à ça, moi, je pense qu'il a raison.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, un défenseur des droits de l'homme est placé sous mandat de dépôt ce jeudi à N'Djamena. Une cabale judiciaire selon les organisations de la société civile. L'affaire coïncide avec la tenue à N'Djamena de la 34e conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune des pays de l'espace francophone. André Komajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Poursuivi au départ pour diffamation par Bokhit Bahar Mahmad Itno, neveu du président Idriss Déby Itno et responsable militaire chargé de l'opération de fouille d'armes dans le cadre de l'état d'urgence instauré dans la province du Hadaï, dans l'est du pays, Mahamad Nouri Bédou attendait le délai pour produire des preuves. Mais ses compagnons et lui ont été surpris par une requalification de faits en meurtre et complicité de meurtre, crime qui serait commis en 2014 par Ibed Malik avant son adhésion à la Convention tchadienne des droits de l'homme CTDH, une ONG que dirige Ibedou. Le militant des droits de l'homme a été placé sous mandat de dépôt jeudi. Maître Delphine Kenelum Djiraïbe fait partie de l'équipe assurant sa défense.
Il n'y a pas de plainte visant M. Ibedou dans une affaire de meurtre. Le juge d'instruction a été saisi par un réquisitoire introductif frappé de nullité.
Les autorités judiciaires brandissent un email capturé sur un écran public comme étant celui d'une conversation entre le présumé criminel et M. Ibedou sur la question de meurtre d'une jeune fille il y a environ 5 ans. Pour Maître Jacques Kélim Moudéna et Maître Mahamat Hassan, ce document est un faux manifeste.
Quand vous envoyez un email, c'est par votre adresse que le destinataire reçoit. Mais dans ce email-là, celui qui a envoyé, il a son adresse, mais réceptionné, c'est une autre adresse.
Nous avons posé la question au procureur de la République. Cet email que vous avez produit dans le dossier a-t-il été tiré de l'ordinateur de l'envoyeur? Pas de réponse.
L'affaire a pris une autre tournure avec la présence d'éminents avocats de l'espace francophone prenant part en Djamena à la conférence internationale des barreaux des traditions juridiques communes.
Le fait que cette affaire gravissime se passe au moment de notre convoi, nous n'avons du mal à ne pas l'interpréter comme une forme de provocation.
Dominique Tricot, représentant de la conférence internationale des barreaux des traditions juridiques communes des pays francophones, il réitère que le document versé dans le dossier est un faux.
D'abord sur le plan technique, le faussaire s'étant rendu compte qu'il avait fait une faute d'orthographe en recopiant les adresses, a fait un second faux en corrigeant l'erreur d'adresse sur l'adresse email, ce qui démontre à quel point le premier qui est dans le dossier du juge d'instruction est un faux. Et nous disons solennellement que M. Ibedou doit être immédiatement libéré.
Vincent Filola, avocat à la Cour de Paris, demande à la justice tchadienne de se montrer indépendante et impartiale dans ce dossier.
De ce que je comprends de ce dossier, une étude, un tant soit peu indépendante, démontre d'évidence qu'il est un dossier monté de toutes pièces pour écarter quelqu'un qui visiblement est un caillou dans la chaussure.
Pour l'heure, les autorités judiciaires refusent de se prononcer sur l'affaire Ibedou. André Code Madjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Congo-Brazzaville, la mort d'un journaliste de la télévision nationale, Borgia Samba, a fait flamber les réseaux sociaux sur la mauvaise réputation du CHU de Brazzaville. Alors que les populations qualifient ce plus grand hôpital du pays de mouroir, les syndicalistes du CHU, eux, dénoncent la mauvaise gestion de la structure par la direction de l'établissement. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Depuis la mort de Borgia Samba, directeur de l'information de la télévision nationale, des suites d'un AVC, les commentaires fusent sur les réseaux sociaux, dénonçant en majorité la mauvaise prise en charge des malades au CHU. Le CHU n'a pas pu sauver Borgia Samba a été le titre d'un post sur Facebook qui a suscité des dizaines de commentaires, alors qu'une vidéo montrant la grande insalubrité du CHU circule toujours sur la toile. En réalité, le CHU de Brazzaville, qui vient de passer 28 mois sans subvention, connaît de nombreuses difficultés et provoque des lénivations des usagers.
Le CHU est devenu un mouroir. Les Congolais, ils meurent là-bas comme des mouches. Malheureusement, quand nous allons maintenant au CHU, c'est pour aller trouver la mort.
Je peux en témoigner. Dans la nuit du 24 au 25 août 2018, ma femme a été brusquement attaquée par un AVC. C'est à ma surprise générale que j'ai constaté qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de respirateur. La salle de réanimation ne fonctionne quasiment pas parce que parfois il manque d'oxygène. C'était le cas ce jour. Ils ont fait une longue ordonnance qui allait dans les 200 000 francs CFA. Pendant que je suis allé acheter des médicaments dans une pharmacie voisine, parce que la pharmacie du CHU n'a même pas un cachet d'aspirine. Et alors, je suis trouvé que mon épouse était déjà décédée.
Pour administrer une thérapeutique de choc au plus grand centre hospitalier du pays avec ses 700 lits et près de 2000 agents, les autorités ont confié la relance du CHU à une équipe d'experts canadiens. Mais 8 mois après, l'intersyndicale du CHU qui dénonce plusieurs griefs trouve que la direction n'améliore pas la situation de l'hôpital. Victor Bienvenu, président de l'intersyndicale.
Quand on nous donne deux subventions à l'hôpital et qu'il n'y a pas de respirateurs dans le service où on prend en charge les malades d'AVC, depuis 8 mois, mais j'insiste, la situation du CHU ne fait que dépérir, ça ne fait que se désagréger. C'est ce que nous dénonçons. Nous ne sommes pas contre la venue de Blancs, non, nous ne sommes pas contre la venue des Canadiens.
Et pourtant, le Canadien Sylvain Villard, directeur général du CHU, dit que les choses commencent à bouger. Encore un peu de temps et suffisamment d'argent, les Congolais vivront la rénovation, soutient-il.
Donc on dit on va améliorer à la hauteur de l'argent qui nous est donné en consultation externe. Naturellement aussi, on veut, dans les prochaines étapes, améliorer l'accueil. Quand vous arrivez ici, l'accueil sur en avant n'est pas très bon.
Les syndicats s'opposent à présent à l'octroi d'un éventuel crédit de 12 milliards de francs CFA que le CHU sollicite auprès de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC. Une démarche que ne comprend pas Sylvain Villard. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, la majorité démocrate de la Chambre des représentants s'apprête à rédiger les chefs d'accusation contre le président Donald Trump. C'est seulement la quatrième fois dans l'histoire américaine qu'un chef de l'exécutif fera face à une telle procédure. Républicains et démocrates ont maintenant les yeux rivés sur les sondages d'opinion. Le reportage de Jean Malone, le récit est de Lionel Gaïma.
Good morning.
La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a fait son annonce historique jeudi, appelant à la rédaction des articles de mise en accusation. C'est l'aboutissement de l'enquête parlementaire sur les allégations de pression du président Trump sur son homologue ukrainien, afin que ce dernier annonce une enquête sur l'ancien vice-président américain Joe Biden et son fils Hunter, Madame Pelosi.
C'est notre démocratie qui est en jeu. Le président ne nous laisse pas d'autre choix que celui d'agir parce qu'il tente de corrompre, une fois de plus, l'élection à son avantage.
Les républicains restent loyaux au président Trump, y compris le représentant Kevin McCarthy, leader de la minorité de la Chambre des représentants.
C'est un jour où la nation paraît plus faible parce que les démocrates ne peuvent pas mettre leur animosité et leur peur de perdre les futures élections avant la volonté du peuple américain.
De retour du sommet de l'OTAN, le président Trump a poursuivi ses attaques contre la procédure de mise en accusation engagée contre lui par les démocrates.
C'est un canular qui n'ira nulle part. Le Parti républicain n'a jamais été aussi uni. Je n'ai rien vu de pareil.
Dans l'opinion publique américaine, partisans et adversaires de la procédure sont à peu près à égalité, défendant farouchement leur position, un adversaire du président.
Il est coupable, il doit être destitué. Il aurait dû l'être il y a bien longtemps pour tout ce qu'il a fait.
Un partisan de Donald Trump.
Je suis contre la procédure de mise en accusation. C'est ridicule. Ils en voulaient à Trump bien avant sa prestation de serment.
En 1974, le président Richard Nixon, qui faisait l'objet d'une procédure de destitution, a choisi de démissionner lorsqu'il s'est rendu compte que plusieurs législateurs républicains s'étaient retournés contre lui suite au scandale de Watergate. Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998 ont survécu à leur procès au Sénat. Pour ce qui est du président Donald Trump, c'est encore le Sénat dominé par les républicains qui aura le dernier mot.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Firmin Max Koyaveda. À la console, Rob McLean. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous, tout de suite le RM Show, présenté par Roger Muntou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue.